Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pas comme les autres. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Et le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui annonce un investissement quand même considérable de 25 millions pour la santé mentale des jeunes. On le sait, ça nous concerne, la santé mentale. Pendant la pandémie, on a beaucoup discuté de la santé mentale des jeunes, en particulier là, qui font face à plusieurs défis particuliers. J'en parle avec le docteur Christine Gros, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Gros, bonjour.
Bonjour.
Bon, concernant les besoins d'aide psychologique, peut-être de façon plus générale, là, vous avez publié un sondage hier réalisé auprès de vos membres sur l'effet de la pandémie. Qu'est-ce qui ressort particulièrement, là? Qu'est-ce qui est frappant dans les données que vous avez collégées?
Bien, ce qui est frappant, c'est qu'il y a 86 % de nos membres qui notent un niveau de détresse élevé. 64 % qui notent une augmentation des demandes urgentes, puis presque 70 % qui observent un retour d'anciens clients qui dont l'état s'est détérioré avec la situation. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on me pose la question, à savoir, mais vos membres dans leur bureau, qu'est-ce qu'ils observent? Et ben écoutez, on l'a mesuré. Donc, on a posé la question, puis ce qu'on estimait, c'est exactement ça qui se passe, parce qu'en début de pandémie, ce qu'on disait, c'est que si on fait pas de prévention puis qu'on s'occupe pas de la santé mentale de la population, ben ça risque de se détériorer. Et ça, c'est un petit peu ça qu'on constate, là.
Oui, puis en même temps, vous avez constaté aussi, je crois, Dr Gros, on s'en doutait un peu, l'augmentation du nombre de ruptures. Les gens aussi consomment plus d'alcool, consomment plus de drogue, augmentation de la violence conjugale. Donc, la situation dans les maisons est un peu explosive, là, dans certains cas.
Ben exactement. C'est-à-dire, c'est ce que nous rapportent nos membres. Donc, les gens qui sont dans les bureaux de consultation, puis on a posé la question autant aux psychologues cliniciens du secteur du réseau public que du secteur privé. Puis, c'est ce qui est observé effectivement. Donc, oui, plus de ruptures, plus de violences conjugales, augmentation de la consommation dans 46 % une proportion de 46 % des cas. Puis, une grande proportion aussi, presque 40 % des demandes de consultation qui viennent des professionnels de la santé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'une détresse psychologique. Puis ce qui nous inquiète, c'est que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, parce que ça, c'est ce que nos membres nous rapportent, mais tout le monde n'a pas accès à leurs services. Alors, qu'est-ce qu'il y en est des gens qui, justement, n'ont pas accès aux services psychologiques?
Oui, ben c'est ça, parce que là, parlons de cette annonce de 25 millions. On dit qu'on va acheter jusqu'à 250 nouvelles ressources pour les jeunes, pour leurs familles, parce qu'on sait, là, en ce moment, le temps d'attendre quand même, là, quand on lit un peu sur le sujet, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Je veux dire, à moins que notre enfant menace carrément de se suicider ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, les temps d'attente sont absolument incroyables si on veut aller au public. Il y en a des gens qui n'ont pas le moyen d'aller au privé. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du gouvernement, on va miser justement sur les bonnes mesures là, qui vont faire que ces temps d'attente-là vont être réduits? Je sais que le ministre Carman a dit qu'il était déjà en train de se réduire avant la pandémie, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres.
On est loin de la coupe aux lèvres, puis on est dans une situation de crise sanitaire. Fait que moi, je vous dirais, peut-être que la meilleure solution, ça aurait été de penser à l'embauche des ressources au privé. Parce que, vous savez, quand il y a eu des débordements, par exemple, puis que le système de santé n'arrivait plus à fournir pour les interventions, pour les cataractes, puis les prothèses aux genoux, ben, le gouvernement a fait un partenariat avec le privé. Puis c'est probablement que ça aurait été une meilleure solution. Une solution plus efficace à ce moment-ci, parce que je suis pas sûre que la solution de fournir plus de ressources au réseau public est la meilleure des solutions, parce qu'il reste qu'il y a puis je sais pas où ils vont être les ressources. T'sais, est-ce que ça va être dans les CLSC, est-ce que ça va être dans les centres jeunesse, est-ce que ça va être dans les hôpitaux, j'en ai aucune idée, mais il y a des dédales administratifs qui font qu'on n'arrive pas directement dans le bureau d'un professionnel de la santé mentale. Puis souvent, il y a justement une liste d'attente pour être évalué au premier chef, puis après ça, être réévalué pour avoir accès à un programme. Alors que si il y avait un plan d'aide gouvernemental qui était déployé puis financé, ben on pourrait aller vers le privé. Puis on a posé, nous, la question à nos membres. S'il y en avait un plan d'aide d'urgence déployé puis financé par le gouvernement, est-ce que vous accepteriez de contribuer? Puis on a plus que la moitié des gens qui ont dit oui, et dans le secteur public et dans le réseau privé. Ça veut dire que on serait capable d'aller chercher presque 7000 heures par semaine de temps qu'on pourrait offrir à la clientèle, mais directement. Ça veut dire que là, la personne prend le téléphone, elle appelle, puis elle a un accès direct à un professionnel. Puis cela dit, je salue ce qui est annoncé ce matin, parce que c'est, tout est mieux que rien, mais je suis loin d'être certaine que ça va être suffisant.
Oui, puis que cet argent-là va aller aux bons endroits, c'est ce que je comprends dans ce que vous me dites.
Ben, je le sais pas. C'est-à-dire que je suis pas certaine que c'est la façon la plus efficace de répondre aux besoins criants actuellement. Je pense qu'il y aurait eu des façons beaucoup plus rapides, efficaces pour la population d'avoir accès à la consultation. Mais puis l'autre chose qui m'inquiète, c'est que j'ai bien entendu qu'on voulait une approche de soins par étapes, puis on est tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, puis il y a un ensemble de services en santé mentale qui peuvent être donnés par différents professionnels puis qui sont efficaces. Mais ce qui m'inquiète, c'est que parmi ces soins-là, il y a la psychothérapie, puis j'en entends malheureusement pas parler, et j'entends pas qu'on veut augmenter l'accessibilité à la psychothérapie, alors que...
Mais le Parti libéral propose un programme de psychothérapie universelle, ça pourrait être une bonne avenue, ça coûterait 300 millions, là. Mais en tout cas, j'ai pour mon dire que la santé mentale, si on s'en occupe pas, ça coûte aussi de l'argent au final.
Mais vous avez parfaitement raison. Savez-vous ce que ça coûte de pas s'en occuper?
Ça
coûte deux fois plus cher. Puis c'est drôle parce qu'on parle de ce que ça coûterait, par exemple, d'offrir de la psychothérapie universellement aux gens, mais on parle jamais de ce que ça coûte de les médicamenter. On parle jamais de ce que ça coûte de ne pas les traiter. Je veux dire, savez-vous ce que ça coûte juste en congé de maladie, les dépressions non traitées? Fait que, honnêtement, ça serait un sacré bon investissement d'investir dans la psychothérapie, mais la démonstration de ça a été faite, là. Je veux dire, c'est fait depuis 2015, ça. Alors, donc, on le sait que c'est efficace, puis on le sait que ça coûte pas cher, puis que les effets durent plus longtemps, c'est-à-dire qu'il y a moins de rechutes quand on ajoute la psychothérapie au traitement. Alors, puis ça m'inquiète parce que je ne vois pas où ni dans quelle mesure l'accès va être augmenté. Puis si tout le monde n'a pas besoin de psychothérapie, mais quand on a besoin, si on donne un autre service que ça, ça sera pas efficace.
Ben oui, puis ça peut dégénérer assez vite, là, tel qu'en témoigne l'actualité des dernières semaines. Là, je pense entre autres au drame de Wendake où il y a deux petits garçons qui ont perdu la vie. Il y avait une personne qui avait besoin d'aide qui en a visiblement pas eu. On n'a pas encore tous les détails, mais quand même. Je veux qu'on se parle, parce que là, l'hiver s'en vient, le manque de luminosité s'en vient, les personnes dépressives, ça va être difficile pour elles. Il y a des personnes aussi, j'imagine, qui sont pas dépressives dans la vie, qui vont développer peut-être des comportements dépressifs à cause de la pandémie. Là, il y a plein d'affaires qui se mélangent en ce moment dans l'espace public, là, notamment la question du suicide. Il y a eu plein d'informations qui ont circulé sur les médias sociaux par rapport au taux de suicide. Puis nous, ici même à cette émission, on l'a répété souvent, on n'a pas vraiment de données qui montrent que la pandémie a affecté le taux de suicide. Mais il y a des gens qui s'inquiètent à propos de ça, qui s'inquiètent de leurs proches, de leurs amis suicidaires, puis de la pandémie. Et là, il y avait un dossier dans le Devoir, Madame Groulx, aujourd'hui. Il y a une récente enquête sur le suicide de la part de coroner qui est rapportée justement par ce journal qui met en lumière que l'un des problèmes principaux de la prévention au niveau du suicide, c'est le manque de communication entre les intervenants et les établissements. Mm-hmm. Est-ce que c'est un constat que vous feriez aussi, vous, à l'Ordre?
Ben, écoutez, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Quand on va dans les forums sur la santé mentale, un des enjeux qui est dramatique, c'est le manque de continuité de soins, puis les personnes qui tombent en deux chaises, justement, ou qui se découragent tellement parce que ils ont des problématiques complexes. Des fois, ils ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire plus qu'un problème de santé mentale. Puis là, ben, ils arrivent pas à être traités dans un programme ou dans un autre, ou encore ils sont traités, mais trop peu longtemps. Puis finalement, ils se retrouvent à se complexifier et finalement, le pire arrive. Donc, ça, c'est des histoires tristes qu'on entend, puis c'est des éléments qui sont peut-être évitables. Nous, quand on a posé la question à nos membres sur, justement, la demande accrue de consultation, dans 23% des cas, c'est des enjeux suicidaires. Puis ça, c'est beaucoup.
Hey,
ça veut pas dire toujours des crises suicidaires, ouais. Mais des enjeux suicidaires. Donc, des comportements, des velléités, des conduites, des idéations. Tu sais, il y a des enjeux là pour lesquels on doit s'inquiéter. Alors, je serais très étonnée qu'il n'y ait pas une proportion plus grande, puis peut-être qu'on va le savoir ultérieurement. Puis encore faut-il justement que les enquêtes du coroner soient faites. Mais tu sais, moi je pense qu'au regard de la santé mentale, si on traite pas, les gens ne seront peut-être pas malades du virus, mais ils auront souffert ou péri à cause du virus, parce que si t'as un épisode dépressif majeur, t'es pas soigné, je veux dire, ça risque de dégénérer. Puis c'est ça qu'on veut pas voir arriver.
Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une autre pandémie en ce moment qui est en train de se jouer. Là, c'est la pandémie justement de problèmes de santé mentale. On va surveiller ça. Comment se déploiera cet investissement de 25 millions pour la santé mentale?
Oui, puis je vous dirais, on l'avait dit en début de pandémie. On l'avait dit, si on travaille pas sur la prévention rapidement, on va avoir une pandémie parallèle. Puis c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Sauf que là, la situation s'est aggravée. Alors, faut vraiment mettre les ressources, puis je le dis là, ça coûte pas cher d'offrir des traitements psychologiques pour traiter la santé mentale. Honnêtement, là, si on offre les bons traitements, on va sauver de l'argent comme société.
Merci, Dr. Christine Gros, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.